Lundi 14 octobre, Esther Duflo, économiste franco-américaine, ainsi que deux autres économistes se sont vus remettre le prestigieux prix Nobel d'économie pour des travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Esther Duflo fait aujourd'hui partie, avec le médiatique Thomas Piketty, des chercheurs qui permettent de renouveler le débat sur les inégalités économiques et sociales. Des inégalités qui prennent notamment vie dans nos maisons, dans les villes, une échelle où s'exercent des phénomènes de ségrégation sociale, c'est-à-dire de division géographique de la population selon sa position sociale. On précise que le genre, l'âge ou encore l'origine sont des facteurs qui peuvent également jouer. Pour faire simple, nous ne sommes pas complètement libres de choisir nos lieux d'habitat, ces choix résultent d'une véritable construction sociale. La ségrégation résidentielle en France n'est pas nouvelle, mais tend à s'accentuer depuis la fin des Trente Glorieuses, après une période historique durant laquelle les groupes sociaux s'étaient rapprochés. D'après Jean-Michel Floch, économiste, dans un dossier publié en 2018 pour une revue de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, aujourd'hui, les grandes villes-centres sont plutôt mixtes, mais les banlieues fortement marquées par la ségrégation d'un quartier à l'autre. Alors quel mécanisme se cache derrière les phénomènes de ségrégation résidentielle? Qui, du marché immobilier, du charme du quartier ou de la distance au lieu de travail impacte le plus le choix résidentiel? Quelle est la responsabilité du politique face à ces constats et qu'est-ce qu'une politique publique efficace en la matière? Mais d'ailleurs, a-t-on vraiment besoin de mixité sociale et pourquoi sommes-nous tant frileux à cette idée? Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Fabien Moiseau. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Rennes 1 et chercheur au Centre de recherche en économie et management. Et dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Fabien Moiseau, actualité récente oblige. Le Nobel de l'économie a été notamment attribué à Esther Duflo, qui est une franco-américaine et qui est la seconde femme après l'américaine Elinor Ostrom en 2009 à avoir le Nobel de l'économie. Vos commentaires, évidemment.
Donc elle a obtenu en plus le prix Nobel très très jeune, à 46 ans. Oui, alors c'est un prix qui récompense des économistes du développement. Sa contribution a été d'importer des méthodes d'évaluation mises en œuvre en médecine. Alors elle consiste à construire deux groupes types. Un groupe de traitement et un groupe placebo. Le groupe de traitement, c'est le groupe auquel on va administrer une politique publique, le médicament. Et le groupe placebo, c'est le groupe de contrôle, c'est le groupe auquel on administre un placebo ou aucune politique publique. Et donc il y a eu énormément d'études qui ont été mises en œuvre dans les pays en développement, au Kenya, en Inde, et qui ont visé à étudier, par exemple, des types d'interventions publiques visant à améliorer les pratiques éducatives, des politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie, de santé de ces populations. Donc c'est vraiment une... ce sont des travaux essentiellement empiriques, hein, d'évaluation de politiques publiques.
Christian Lebar.
Oui, alors c'est intéressant parce que, en fait, il y a deux économistes français qui sont très très présents dans l'espace public, dans l'espace intellectuel aujourd'hui. Donc c'est elle et Thomas Piketty, bien sûr. Et alors, vu de l'extérieur, enfin, vu du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui des sciences sociales en général, de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, j'ai un peu l'impression que ce sont deux personnalités scientifiques. Alors, je n'ai pas les compétences pour mesurer leur, leurs qualités, mais sont sûrement extrêmes, mais qui travaillent un peu différemment de la grande majorité des économistes aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui, tout simplement, font des livres, alors que dans les unités de recherche, on valorise davantage les articles. C'est des gens qui écrivent en français, qui n'ont pas renoncé à s'adresser à un large public, alors qu'on a souvent l'impression que l'économie est devenue une science à la fois très, très technique, très mathématisée, très modélisée, et pour initier. Alors, est-ce que je me trompe dans mon appréciation ou quel rôle ils ont, ces intellectuels, dans le champ? Est-ce qu'ils sont légitimes?
Alors, Thomas Piketty, je fais le pari que Thomas Piketty aura aussi le prix Nobel d'économie parce que il contribue à renouveler la pensée sur les inégalités.
La formule des premiers de cordée qu'on a en France actuellement fait penser à la formule qu'il y a chez Donald Trump, qui est celle de toujours vouloir appeler les milliardaires les job creators, les créateurs d'emplois. Donc c'est une façon de dire, voilà, vous te rendez compte, vous leur devez votre emploi, quoi. Et sans leur génie, vous seriez tous au chômage, bande de bons à rien. C'est un discours qui est quand même un peu extrême, parce qu'il y a des personnes, des entrepreneurs qui ont des idées, c'est très bien. Mais c'est pas parce que vous avez eu une bonne idée à 30 ans qu'à 70 ans ou à 90 ans, vous devez continuer d'avoir des centaines de milliards d'euros, vous acheter des médias dans le monde entier.
Extrait d'une interview de Thomas Piketty dans 28 minutes sur Arte au mois de septembre dernier.
Il a collecter un nombre remarquable, très conséquent de données sur les inégalités. Donc il a commencé par la France et maintenant, avec son équipe du World Income Database, qui est située à PSE, Paris School of Economics, ou l'École d'économie de Paris en français, l'objectif c'est de mesurer les inégalités dans le monde entier. Il a notamment deux autres co-auteurs avec qui, à mon avis, il obtiendra le prix Nobel. C'est Gabriel Zucman, qui sont basés en Californie, à Berkeley. Gabriel Zucman et Emmanuel Saez. Donc, ils ont renouvelé le débat sur les inégalités aux États-Unis. Thomas Piketty écrit des best-sellers. Mais il contribue également, il publie énormément dans les grandes revues scientifiques.
D'accord.
Alors, il a contribué, il a développé des modèles théoriques visant à améliorer la compréhension des mécanismes générateurs des inégalités. Et puis, depuis maintenant 15-20 ans, son champ est plutôt empirique de collecte de données, et il a jeté une lumière nouvelle sur la dynamique des inégalités.
En dialoguant avec les historiens, les sociologues, ce qui, pour prolonger ma question de tout à l'heure, est aussi peut-être une des marques de singularité de ces auteurs.
C'est une approche pluridisciplinaire, hein. Il mobilise les connaissances en histoire. L'économie, c'est une science sociale et grâce aussi à l'amélioration des technologies de collecte d'informations, grâce au big data, maintenant on peut collecter des données historiques et avoir davantage d'informations et améliorer nos connaissances sur la dynamique des inégalités. Et ce qu'a mis en évidence Thomas Piketty, par exemple pour la France, mais pour un grand nombre de pays anglo-saxons, c'est que qu'on regarde la dynamique des inégalités de salaire, des revenus du travail, ou bien la dynamique des inégalités de patrimoine, la richesse, essentiellement la richesse immobilière, mais pas que, les revenus, aussi le capital financier, on se rend compte sur le XXe siècle que ces dynamiques ont suivi une courbe en U. Les inégalités étaient très élevées au début du XXe siècle et ont chuté à partir de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour remonter ensuite, et on est à des niveaux comparables, à des niveaux d'inégalité comparables à ceux du XXe siècle.
Vos travaux, Fabien Moiseau, portent sur les inégalités, sur la ségrégation dans les villes et dans les quartiers. Vous parliez tout à l'heure de modèles. Vous-même, vous avez travaillé, je crois, avec des chercheurs néerlandais et belges pour expliquer d'où vient le pourquoi et le comment de la ségrégation dans les villes. Vous voulez nous expliquer un peu comment vous avez procédé ?
Alors, c'est un projet de recherche qu'on a mené à quatre avec Hans Koster, qui est à l'université d'Amsterdam, Jacques Thys, qui est professeur à l'université catholique de Louvain, et Karl Guénier, qui est chercheur à Rennes, au laboratoire Smart Les Récos, INRA. Notre projet a consisté s'est organisé en deux étapes. La première étape a été de développer un modèle théorique visant à tenter d'expliquer les mécanismes sous-jacents de la ségrégation urbaine. Quels sont les déterminants des choix résidentiels des individus ? Et nous nous sommes focalisés sur trois déterminants. Alors, bien évidemment, il y a le marché du logement. Le second déterminant, ce sont ce qu'on appelle les aménités. Alors, c'est par exemple les bâtiments historiques habités au Parlement, la proximité d'un parc. Un autre élément important aussi qui est mis en évidence en économie urbaine, c'est la distance au centre d'emploi, voilà, qui va déterminer qui est un élément important de ce qu'on appelle la mobilité pendulaire. Chaque jour, vous devez faire votre trajet domicile-travail. Nous avons mis en évidence à partir... Alors, bien sûr, il y a d'autres déterminants. La ségrégation urbaine, elle recouvre multiples facettes. Nous nous sommes concentrés sur ces trois déterminants, aménités, marché foncier et coût de mobilité, pour comprendre les choix résidentiels. Le modèle théorique met en évidence une relation entre les attributs d'un lieu de résidence, l'attribut en termes d'aménité et de distance au centre d'emploi et prix foncier, et la catégorie sociale qui va habiter dans ce lieu de résidence, qui va se localiser en un endroit particulier. Donc le modèle, la prédiction théorique du modèle, c'est de pouvoir connaître, en fonction des attributs de l'espace, qui va habiter à cet endroit. La seconde étape de notre...
C'est la validation.
La seconde étape, c'est la validation. La seconde étape va consister à tester notre modèle. Alors, pour tester notre modèle, nous avons obtenu des données hollandaises sur la période 2010-2015, c'est à peu près 10 millions d'observations, donc c'est une grosse base de données.
Donc ce n'est pas des villes françaises alors ?
Non, ce ne sont pas des villes françaises. Mais c'est un modèle qui pourrait s'appliquer aux villes françaises, mais on ne dispose pas des données françaises. On n'a pas disposé, les données peuvent être disponibles, mais on n'y a pas eu accès. Pour ce qui est des données hollandaises, on a l'ensemble des transactions immobilières qui ont été réalisées en Hollande, et on dispose également de toutes les caractéristiques des ménages, de leur lieu de résidence et de leur lieu d'emploi. Donc, à partir de ces données...
De quelle ville s'agit-il ?
Donc, il s'agit de l'ensemble des Pays-Bas.
D'accord. Donc, voilà. Ville à partir de...
Donc, les Pays-Bas se caractérisent... Alors, c'est un objet d'étude qui est très intéressant pour nous, parce que les Pays-Bas se caractérisent par... c'est un pays ancien, donc c'est un pays qui a une histoire très ancienne et qui est très riche en termes de monuments historiques, par exemple. Donc, c'était un lieu idéal pour tester notre modèle. Par exemple, il y a 8 monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est plus que Londres, c'est plus que Paris. Londres 5, Paris 4. Il y a 61 000 monuments historiques aux Pays-Bas. C'est un pays extrêmement dense, la densité aux Pays-Bas est aussi forte que Los Angeles. Pourtant, Los Angeles fait la moitié de la superficie de la Hollande. Donc, c'était un objet d'étude parfait pour nous. Donc, nous avons testé notre modèle. Il s'avère que notre modèle n'explique pas tout, parce que bien évidemment, il y a des mécanismes qu'on ne prend pas en compte, mais on explique une partie des motivations qui guident les choix résidentiels des Hollandais. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que, par exemple, si on double le niveau, la qualité des aménités qui caractérisent un lieu résidentiel, on peut attirer des catégories sociales dont le revenu est supérieur de 2,3%. Alors 2,3%, c'est pas beaucoup, mais en moyenne, le revenu moyen hollandais, c'est 90 000 euros, donc revenu annuel, donc c'est quand même 1800 euros, on change la population, si vous voulez.
Si j'essaie de commenter les trois variables, il y en a deux qui renvoient à un modèle assez classique d'homo economicus, c'est-à-dire, je vais habiter là où j'ai les moyens d'acheter ou de louer, donc prix du mètre carré, etc. Donc là, c'est la rationalité du marché. Le temps de trajet pour aller bosser, là, effectivement, c'est une forme de rationalité qu'on connaît tous, très, très liée à la vie quotidienne. Et la troisième variable, vous dites les aménités, elle est plus complexe. Elle renvoie probablement à des choses un peu plus subjectives qui obligent à complexifier un petit peu le modèle de l'acteur. Hein, quel goût on peut avoir pour le patrimoine, qu'est-ce qu'on est prêt à consentir comme effort pour habiter dans un centre historique ou au contraire, peut-être, parce que les Pays-Bas, c'est aussi des modèles souvent présentés comme exemplaires en matière de construction d'écoquartiers ou des choses comme ça. Donc là, comment vous vous dépatouillez avec cette dimension multiple, en fait?
Alors, je vous remercie, Christian, de poser cette question qui est extrêmement pertinente, parce que ça me permet de revenir sur la façon dont on mesure les aménités, justement. Nous mesurons les aménités à partir de la densité, on utilise l'Internet et le Big Data, à partir de la densité des photos géolocalisées qui sont prises en un point particulier de l'espace. Voilà. On utilise les photos qui sont stockées sur le site Flickr, que je ne connaissais pas avant, je ne suis pas... Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que si à un endroit, il y a beaucoup de photos qui sont prises, pas seulement par les touristes, on connaît aussi, on sait quelles sont les photos prises par les résidents. S'il y a beaucoup de photos prises en un point particulier, c'est que ça signifie que cet endroit est plaisant.
D'accord.
Plaisant à regarder.
Plaisant, voilà.
Agréable, il y a quelque chose d'esthétique
à regarder
et à habiter. Alors, on fait des tests de robustesse, si vous voulez. Par exemple, on regarde, si on avait pris la densité de monuments historiques classés. C'est très très corrélé en fait. Dans les endroits où on a beaucoup de monuments classés, on prend les photos. C'est là où on prend les photos. L'avantage de prendre en compte de mobiliser cette mesure, c'est que on capte la qualité perçue par les résidents eux-mêmes. Donc c'est un gros avantage. En gros, ce sont les préférences révélées que nous captons, les goûts que révèlent les résidents. Et notre modèle et notre validation empirique met en évidence que c'est un motif qui compte dans les choix résidentiels des individus. Alors il y a un autre motif, les coûts de transport. La distance au centre d'emploi, ça joue à peu près dans les mêmes proportions que les aménités, conformément à notre étude.
Mais l'immobilier aussi, j'imagine que c'est un facteur extrêmement important, parce que quand vous nous dites le plaisir de regarder et d'habiter, spontanément, on pense que c'est des beaux quartiers.
Oui.
Quand je dis beaux quartiers, ça peut être aussi quartiers vivants. Moi, il y a certains, ça c'est à titre très personnel, très beaux quartiers que je trouve d'un ennui à mourir. Il n'y a pas un café, il y a pour aller acheter le pain ou le journal, il n'y a rien, etc. Mais c'est des belles maisons, des beaux jardins, et, etc., etc. Mais c'est quand même... est-ce que dans toutes ces photos prises, vous avez beaucoup de photos de grands ensembles, vous avez beaucoup de photos de tours, vous avez beaucoup de photos de ce qu'on appellerait en France des HLM, ou est-ce que vous avez que des bâtiments historiques ? Enfin, j'exagère.
Il n'y a pas seulement des bâtiments historiques, il y a également le fait que... Enfin, il peut y avoir des parcs, la proximité d'un parc... Alors, on n'a pas dans le détail tous les monuments qui sont pris. Hein. Ce sont des millions de photos. Hein. Il faut bien voir que les outils statistiques que nous mobilisons pour tester cette hypothèse prennent en compte la qualité du bâti, prennent en compte la proximité de commerce. Donc, les outils statistiques qu'on mobilise résonnent, alors c'est, excusez-moi pour le jargon, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, entre deux quartiers qui ont la même qualité de bâti, eh bien, on constate que on est attiré, on va préférer habiter dans le quartier qui offre davantage d'aménité. De commerce identique.
D'accord.
On contrôle, on dit qu'on contrôle par ce genre de par ces paramètres.
Et du coup, la question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ces résultats sont transposables à la France, j'allais dire à Rennes en particulier. Vous l'avez rappelé, les Pays-Bas, c'est une forme d'urbanité très, très particulière, une très grande densité urbaine, des formes d'étalement urbain assez, assez spécifiques. Notre paysage à nous est très, très différent de ça. En particulier, l'opposition centre-ville, périurbain, je ne suis pas sûr que ça soit complètement comparable. Donc, est-ce qu'on peut un peu imaginer ce que donnerait ce type d'enquête appliquée à la ville de Rennes?
Alors,
par hypothèse, non, mais bon.
Non, mais c'est notre modèle théorique peut s'exporter. Hein, c'est pas un modèle théorique propre à la Hollande. Notre modèle théorique peut s'exporter à tout pays, toute société où on fait des choix résidentiels, donc partout.
Les trois variables, en plus, elles fonctionneraient très bien dans le cadre de la France.
Tout à fait. Et on rêverait de disposer de données pour Rennes, pour Paris, pour les grandes villes françaises, parce que même si c'est certainement différent de la Hollande, la France est connue pour les villes françaises sont connues pour offrir des aménités, une qualité de vie incomparable, et donc ces problématiques se posent aussi pour les villes françaises. Alors, il est certain que les chiffres que je vous ai donnés concernant l'effet des aménités sur le type de population, le type de revenu qui va habiter à un endroit particulier ne seront pas forcément comparables. Mais ces motifs peuvent jouer, oui.
Il y a peut-être une des limites de la comparaison tient peut-être au fait que Il y a quand même une crise de l'immobilier en France qui est très très forte. Je veux dire par là que les gens, ils habitent d'abord là où ils peuvent habiter, c'est-à-dire l'idée d'un choix résidentiel trouve évidemment sa limite dans le fait qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement peuvent choisir. Il y a une grande majorité de gens pour qui le choix est quand même très très limité, enfermé dans des alternatives serrées. Et puis il y a des gens qui vont là où ils peuvent et qu'on pas le choix du tout, quoi. Alors ça renvoie à la fois à la question du niveau de vie des populations, à la question de l'état du marché immobilier. Je sais pas du tout ce qu'il en est aux Pays-Bas, mais voilà, à Paris, on habite la vie de la place. Enfin, donc du coup, est-ce que la première variable écrase pas un peu les deux autres? C'est-à-dire le choix des aménités. Je sais pas, j'ai une fille étudiante à Paris. Elle habite là où elle habite, c'est moche. Si c'était joli, ce serait mieux. Mais elle a juste pris là où il y avait une opportunité, quoi. Et de même, elle se tape du RER. voilà, faut faire avec.
Oui, alors effectivement, nous, dans notre modèle, et je pense que c'est un mécanisme important, c'est le marché foncier, le prix de l'immobilier qui va filtrer les populations. Hein, et effectivement, quand vous n'avez pas les moyens, vous allez vous retrouver dans des endroits qui sont peu dotés en termes d'aménités et qui sont loin des centres d'emploi. Hein. Donc effectivement, là, la force, c'est le prix de l'immobilier. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, et c'est ce que vous dites dans votre question. C'est aussi le fait de construire, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des logements vacants? Est-ce qu'on peut construire facilement? Donc, dans notre modèle théorique, nous ne prenons pas en compte on fait l'hypothèse que les logements sont, il y a une offre de logement donnée, et que si on souhaite habiter dans cet endroit, il y a un logement disponible, si on peut le payer. Et c'est un paramètre qu'on ne prend pas forcément en compte, c'est l'offre de logement, le secteur de la construction. Ça prend du temps de construire. C'est coûteux. Alors, dans notre validation empirique, on prend en compte cette caractéristique quand même à travers l'âge des bâtiments. Donc, c'est une variable qu'on prend en compte. C'est une variable qu'on met pas en évidence dans notre modèle théorique. Et vous avez raison de souligner, ça joue sur les possibilités de se localiser dans l'espace, dans la ville, effectivement.
On y reviendra évidemment, et là on fait une pause, et c'est Gontard qui nous interprète évidemment Dans ma ville.
Avant de se lancer dans un concept album autour d'une ville, vaut mieux rien laisser au hasard, sinon on se fourvoie dans du gadget. Alors c'est sûr, t'en vendras des galettes, mais c'est creux, c'est le néant. Avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville. Ici, Gontard sur Misère, par la sociologie, par la psychologie, avec comme point d'appui la presse locale. Ici, le Dauphiné libéré, quintessence du rien, Poujadeau crypto-libéral. Pour remplir ma mission, j'individualiserai la ville, avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques et ses notables. Il faudra planter le décor, bien sentir l'anatomie de la ville, battre sous nos doigts, photographier les crises, les enthousiasmes, puis les écroulements. Et les derniers hivers. Gontard sur Misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes, Léopold Nord et vous. Les trois ducs de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. À la base, cette foire a été créée en 1930, en pleine crise économique, pour relancer l'industrie de la chaussure qui se cassait la gueule une première fois. Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral. Plus loin, là-bas, ils avaient la farge et la cimenterie. Ici, c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, il s'est bien fait du blé. Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde. Puis il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, c'est chômage de masse, attrape-couillon. gare TGV, la grande aglo, Narco Avenue, 2084. Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques, moins de structures publiques pour un désendettement efficace. Selon les affameurs, la Cour des comptes s'attend des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants pour faire rentrer des devises. C'est complètement con ce parrainage. Y'a pas un Pékin en ville. Y'a pas un Pékin, pas un Pékin en ville. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons, pour faire une chanson, faut pas lire la fiche Wikipédia de Compteurs sur Misère. Pour faire une chanson qui rentre dans toutes les maisons, pour faire une chanson, il faut planter le décor. Je veux planter le décor. Il faut planter le décor, mes amis. Plantons le décor. Plantons tous les décors. Une chanson, planter le décor. Et pas lire la fiche Wikipédia. Planter le décor. Ça rend fou. Planter le décor. En compte les maisons. Il faut pas lire la fiche Wikipédia de Gontard sur Misère. Faut planter les décors. Ça rend fou. Ça rend con.
Vous écoutez Canal B, à l'instant c'était Gontard avec le titre Dans ma ville. Aujourd'hui, dans votre émission consacrée à la recherche universitaire, nous recevons Fabien Moiseau. Il est professeur d'économie à l'université Rennes 1 et chercheur au sein du centre de recherche en économie et management. À l'instant, vous avez pu découvrir son travail de recherche pour comprendre les choix résidentiels, en l'occurrence des Néerlandais, avec un facteur déterminant pour les classes sociales dominantes, ce sont les aménités, c'est-à-dire le charme d'un quartier. Un modèle qui pourrait être transposé aux villes françaises avec une particularité toutefois, c'est la force de la crise immobilière actuelle. À présent, zoom sur la responsabilité du politique face au phénomène de ségrégation sociale, quelle politique fonctionne et à quelles échelles, l'occasion également de questionner l'idéal de mixité sociale, parfois battu en brèche par les habitants eux-mêmes.
Fabien Moiseau, comment est-ce qu'on peut lutter contre ou atténuer la ségrégation et la division sociale dans les villes?
Alors c'est un problème très complexe. On n'a pas une recette bien définie. Parce que la ségrégation, elle, c'est le résultat de multiples forces ségrégatives. Prenons Une inégalité importante qui est l'inégalité en termes d'emploi, d'accès à l'emploi. Vous avez les détenteurs d'emploi et ceux qui sont au chômage. Le chômage, malheureusement, frappe des catégories plus fragiles, les moins diplômés, les immigrés, les femmes. La discrimination sur le marché du travail, elle réduit la mobilité de certaines catégories de la population et les éloigne des centres d'emploi. Cet éloignement réduit d'autant plus leurs chances de trouver un travail et peut inciter à ne pas changer de lieu de résidence. On peut ajouter à ça des normes de comportement qui peuvent venir aggraver les inégalités. À quoi bon chercher un emploi si autour de moi la norme sociale c'est l'inactivité? Il y a également des normes de comportement qui peuvent être plus graves, hein, l'insécurité, des comportements voire criminels. Donc la ségrégation, ça peut être le résultat d'un cercle vicieux, hein, et c'est très difficile de casser ce cercle vicieux. Donc l'implication déjà de ce constat, c'est que une politique publique qui serait ponctuelle, qui viserait une dimension du problème, ne permettra pas de casser le cercle vicieux de la ségrégation. Il faut prendre en compte toutes les dimensions du problème.
Peut-être que aussi un des facteurs, vous le suggériez, et puis vous l'avez écrit par ailleurs, mais une des dimensions de ce cercle vicieux, c'est la culture de l'entre-soi, c'est-à-dire le fait que les riches aiment bien être avec d'autres riches, que les classes moyennes aiment bien être entre elles, et que... d'une certaine façon, et peut-être avec des guillemets cette fois-ci, mais les milieux populaires peuvent apprécier aussi des formes de sociabilité liées à la fréquentation de semblables. Donc, l'idéal de mixité sociale qui est souvent porté par le discours politique, il peut aussi se heurter à l'inertie des préférences.
Oui, oui, tout à fait. Il y a un souci de l'entre-soi. La ségrégation, c'est le résultat aussi de qu'on souhaite voisiner avec des gens qui sont semblables. Pourquoi ? Parce que constituer un réseau permet de produire des interactions qui pèsent sur le destin individuel de chacun. Quand vous avez un bon réseau peut vous permettre de trouver un travail. On sait que 30% des emplois trouvés le sont grâce au réseau d'amis. On voit aussi que dans les établissements scolaires, la mixité sociale compte et que ça se traduit par des inégalités en termes de réussite scolaire qui peuvent être très profondes. Donc la ségrégation, c'est un résultat d'un souci de toutes les classes sociales, de constituer un entre-soi.
Juste quand même, on a souvent entendu des personnes ou des familles dans les quartiers populaires, voire très défavorisées, qui disent que leur grande envie, c'est justement, comme ils disent, de quitter le quartier, de plus être là, de plus être stigmatisé et de s'en aller. Donc là, l'entre-soi, il a ses limites. On veut fuir ça. On veut fuir ces normes, et pour les femmes et pour les hommes, extrêmement rigides et pesantes et dangereuses pour certains.
Effectivement, la ségrégation crée beaucoup de frustration, et l'isolement social dans certains quartiers peut alimenter un sentiment qu'on est délaissé par les pouvoirs publics et qu'on est relégué par le reste de la société. Effectivement, les inégalités qui sont produites mettent en cause la cohésion sociale. Et puis, on le voit, des fois, ça explose. Ça explose dans les banlieues. L'une des questions qu'on peut se poser, les sciences sociales se sont posées, c'est: est-ce que cette situation, au niveau de la société, elle est souhaitable ou pas? Est-ce que c'est finalement la ségrégation? Est-ce que c'est pas profitable à la société? Alors c'est une question provocatrice, mais il faut se la poser.
Oui, parce que le terme est très péjoratif.
Oui.
Qui sont les gagnants et les perdants?
Les gagnants, c'est ceux qui... De la ségrégation. C'est les populations qui sont dans des quartiers agréables.
Les riches, les aisés.
Dont les enfants vont dans des écoles qui réussissent.
La mixité sociale, les pauvres sont pour. C'est normal, s'ils en profitent, ils vont avoir accès à des meilleures qualités de logement, de services, etc. Les classes moyennes inférieures sont pour, une partie des classes moyennes supérieures sont pour par conviction idéologique, et tous les autres, ils sont contre. Je voudrais rappeler que quand la gauche arrive au début des années 80, elle est en train de lancer l'impôt sur la fortune qui attaque leur patrimoine, pas de manifestation. Elle fait des dévaluations en série qui attaquent leur épargne, pas de manifestation. Elle augmente les impôts, toujours pas de manifestation. Elle annonce, projet de loi Savary, désormais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rendre plus difficile de mettre entre eux vos gamins dans leurs écoles privées, dans l'entre-soi, 1 million de personnes dans la rue.
Vous venez d'entendre le politologue Thomas Guénolet dans l'émission Ce soir ou jamais du 30 octobre 2015 sur France 2.
Les études, il y a une étude qu'on cite souvent qui a été menée aux États-Unis pour évaluer les effets de la mixité sociale, qui est le programme MTO, Moving to Opportunity, qui a été mis en...
Partirage au sort des populations.
Exactement, qui a été mis en œuvre dans les grandes villes américaines, New York, Baltimore, Boston, Los Angeles, Il m'en manque une, mais... donc ce programme a été mis en œuvre en 1994, a impliqué 4600 familles défavorisées, et on a mis en œuvre la méthode d'Esther Duflo, justement.
C'est-à-dire ?
Parmi ces 4600 familles défavorisées, on a tiré au sort les familles qui allaient bénéficier d'une prime au déménagement. Donc elles recevaient une aide au déménagement. La condition, c'est que les familles qui profitaient de cette aide allaient habiter dans un quartier où le taux de pauvreté était beaucoup plus faible que dans le quartier où elles habitaient et où les établissements scolaires étaient meilleurs. C'est le groupe de traitement de la méthode expérimentale d'Esther Duflo. Et vous avez un groupe placebo qui reste dans le ghetto. Bon. Et on a évalué les effets à partir de 2005 de ce programme. Les effets ont été plutôt surprenants sur la réussite scolaire. Puisque on s'est rendu compte que les familles qui avaient déménagé, les enfants des familles qui avaient déménagé ne réussissaient pas sensiblement mieux que leurs camarades qui restaient dans les quartiers pauvres. En revanche, les résultats, les différences étaient considérables en matière de santé, de comportement, de consommation de drogue, de comportement déviant, entre guillemets, les familles qui avaient bénéficié de cette prime et du déménagement réussissaient beaucoup mieux, avaient des comportements beaucoup moins risqués que les familles qui restaient dans ces quartiers pauvres. Et là, on peut penser que finalement, à long terme, ça se traduira par davantage de réussite scolaire, davantage de meilleurs résultats scolaires pour les générations de ces familles et pour les générations qui suivront. Donc, les résultats sont plutôt favorables à la mixité sociale. Hein. Et les familles qui étaient dans les quartiers favorisés n'y ont pas perdu. C'est aussi ça qui est important. Donc, en gros, on peut dire que la mixité sociale peut profiter à tous. Donc, ce sont des résultats plutôt positifs.
Les gens ont été tirés au sort sur des listes de volontaires ou tirés au sort tout court ?
Alors, il me semble que c'est tiré au sort tout court.
Tout court. Hein, ouais.
Si mes souvenirs sont bons.
Non, parce qu'on peut, très bien imaginer que les effets soient à la fois positifs en termes de... Enfin, à moyen et surtout à long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, la génération suivante, la première génération en devenant adulte et pourquoi pas la suivante, soit marquée effectivement par un destin scolaire meilleur, professionnel, etc. Et par une vie plus douce, pour le dire brutalement. Mais ça n'exclut pas effectivement toute une série de perte de repères, d'arrachement à un quartier, ce que disait Colette tout à l'heure, qui est toujours la relation des milieux populaires au quartier défavorisé, toujours une relation très 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 ambivalente, qui est à la fois, enfin moi j'ai des étudiants qui ont travaillé sur l'attachement à Villejean par exemple en milieu populaire, quand on demande aux gens, à des jeunes par exemple, est-ce que vous allez souvent en centre-ville, qu'est-ce qu'on irait faire en centre-ville, on est très fiers du quartier qu'on habite, et en même temps on sait très bien que ce quartier il est stigmatisé, mais justement on a une stratégie collective de retournement de stigmates qui n'exclura pas éventuellement des stratégies individuelles pour quitter le quartier si on en a la possibilité. Bourdieu a une phrase terrible, il dit les milieux populaires ont souvent le goût de ce à quoi ils sont objectivement condamnés, et là il me semble qu'en matière de résidence c'est un peu ça.
Effectivement, il y a des identités qui se construisent et donc on peut effectivement souhaiter se reconnaître dans le quartier dans lequel on habite,
à condition qu'il ne soit pas trop délabré, qu'il n'y ait pas trop d'incivilité, etc. quand même si on défend où on est, d'où l'on est, mais quand même.
Sans doute.
Mais cette idée, cette étude Moving to Opportunity met en évidence, tente d'expliquer le fait que les résultats a priori surprenants sur l'éducation. Et on a constaté effectivement que les familles qui avaient déménagé, qui habitaient maintenant un quartier plus favorisé, pouvaient avoir du mal Il y avait une sorte d'isolement qui se construisait parce que on pouvait avoir du mal à s'intégrer dans ces quartiers favorisés. On était un petit peu perdus. Enfin, le déménagement aussi, c'est une perte de repères. Hein, donc c'est aussi la mixité sociale, ça peut être difficile à mettre en œuvre. Justement, parce que les liens ne se font pas aussi facilement que ça. Et on porte avec soi une identité qui peut venir rendre difficile l'établissement d'un nouveau réseau social.
Est-ce que la mise en place en 2000 de la loi SRU pour solidarité et renouvellement urbain, qui oblige les communes à construire des logements sociaux, je crois que c'est l'an prochain, en 2020, qu'on doit faire le bilan de cette loi. Et là, par exemple, il y a encore, c'est les chiffres, fin 2017, 649 communes sur les 1161 assujetties qui n'ont pas rempli leurs obligations. Et parmi ces 649 communes, il y en a 233 qui sont déclarées carencées, c'est-à-dire qui vont payer des amendes très élevées, notamment en Île-de-France, en Provence, Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Où est-ce qu'on en est est-ce que c'était une bonne chose? Parce que la loi SRU a permis de construire du logement social. Mais les limites de cette loi, on en est où là?
Alors oui, effectivement, on a entendu parler de certaines communes des Hauts-de-Seine qui souhaitaient pas construire des logements sociaux et qui préféraient payer des amendes.
Communes riches.
Oui, et ça c'est la traduction de l'entre-soi. Les évaluations, alors quand on regarde pour l'ensemble des communes qui font plus de 3500 habitants et 1500 habitants en Île-de-France, qui sont assujettis à la loi SRU, les résultats sont plutôt positifs. On s'est rendu compte que la loi a permis d'augmenter l'offre de logements sociaux. Une autre question, c'était où est-ce qu'on construit ces logements sociaux? Si on parque les logements sociaux dans un endroit et qu'on construit de nouveaux ghettos, c'est un problème. On s'est rendu compte...
Parce que la loi est contraignante de ce point de vue-là? Non, elle oblige à construire, mais je crois...
Je ne suis pas sûr. Ce dont on s'est...
C'est le chiffre qui importe.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la ségrégation entre logements sociaux et logements du parc privé s'était réduite. Donc ce qui tend à confirmer que les maires ont construit de manière parsemée. Ces logements sociaux. Hein. Donc, et même avec des changements de majorité, on s'est aperçu que la tendance à l'augmentation de la construction de logements sociaux ne s'est pas réduite. Elle a traversé les élections et les changements de majorité. Hein, donc une augmentation des logements sociaux et une réduction de la ségrégation entre logements sociaux et logements du parc privé. Donc les effets sont plutôt positifs de ce point de vue-là. Alors ensuite, il faut savoir qui peut habiter les logements sociaux. Il faut savoir comment ça s'applique à un niveau plus fin. Mais voilà, les premiers résultats semblent plutôt positifs.
Qu'est-ce que vous avez comme autre bonne piste de ce type pour réduire la ségrégation? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, alors il y a eu un premier type de politique publique qui a visé à lutter contre la ségrégation, c'est a consisté à amener les emplois. Ce sont les zones franches urbaines qui ont été mises en place à partir de 1996 sous le gouvernement d'Alain Juppé. Les zones franches urbaines exonèrent de cotisations sociales et d'autres impôts les entreprises qui s'implanteraient dans certains quartiers défavorisés. Donc l'objectif, c'est d'amener les emplois dans les quartiers défavorisés. On s'est rendu compte, alors les résultats sont plutôt mitigés. Alors, il y a eu, en fait, donc en 96, on parle des zones franches urbaines de première génération. Et puis, ensuite, vous avez eu... à partir de, un peu plus tard, les zones franches urbaines de deuxième génération et de troisième génération. Donc parlons des zones franches urbaines de première génération, les effets à court terme, donc 5 ans après, en 2001, ont été plutôt positifs. Le nombre d'établissements a doublé, le nombre d'emplois a triplé. En revanche, à plus long terme, au-delà des 5 ans, donc 5 ans, c'était la période de temps pendant laquelle les entreprises pouvaient bénéficier de ces exonérations. Et ensuite, les dispositifs d'exonération se réduisent.
C'est concentré sur Île-de-France ou il y en a en Bretagne ?
Il y en a en Bretagne. Ouais. Il y en a eu en Bretagne, effectivement. Non, c'est sur toute la France. Alors, j'ai pas bien en tête la carte géographique des zones franches urbaines, mais c'est souvent dans les grandes agglomérations. Et le bilan est beaucoup plus mitigé 5 ans après. On s'est rendu compte que cette croissance de l'emploi s'était atténuée, que certaines entreprises disparaissaient, parce que finalement, les entreprises qui ont ce genre de politique de subvention... fait survivre des entreprises qui ne sont pas forcément très très compétitives. Et l'autre effet, c'est l'autre explication, c'est que les entreprises ont tenté de bénéficier d'effets d'aubaine. On s'est rendu compte que 5 ans plus tard, les entreprises partaient justement dans les localités qui sont voisines. Donc encore une fois, ces évaluations de politique publique, elles mobilisent la méthode expérimentale à la Esther Duflo. On identifie des zones franches urbaines qui vont bénéficier du dispositif, des quartiers qui bénéficient du dispositif, et on essaie d'identifier des quartiers souvent voisins qui ont les mêmes caractéristiques, c'est le groupe placebo, mais qui ne va pas bénéficier de ces zones franches urbaines. Et on essaie de comparer l'évolution des emplois et de l'activité entre ces deux quartiers. Donc, ça marche à court terme, c'est coûteux, finalement, à plus long terme, c'est coûteux. Le résultat à plus long terme, c'est, voilà,
plus mitigé, là.
C'est mitigé.
Alors, on peut rapprocher les emplois des habitants de plusieurs façons. Est-ce que les politiques de transport, sans transport public aussi, là, pour le coup, méritent pas d'être intégrées à l'analyse pour désenclaver les territoires ?
Alors, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je reviens sur les zones franches urbaines. On s'est rendu compte que l'effet sur les zones franches urbaines pouvait être très hétérogène. Et cette politique est plutôt inefficace quand elle s'applique à des quartiers qui sont enclavés, qui sont isolés géographiquement, donc qui ne disposent pas d'infrastructures de transport efficaces, qui sont aussi assez pauvres en services publics, qui ne bénéficient pas d'un tissu de PME d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc voilà, l'isolement de certains quartiers, c'est un facteur qui va venir qui va avoir un impact sur l'efficacité de ces politiques. Alors on a tenté de ces politiques, pardon, qui visent à amener l'emploi dans les quartiers pauvres, on a tenté de favoriser la mobilité des habitants des quartiers pauvres. Donc amener les individus vers l'emploi. Alors il y a eu des expérimentations qui ont été menées et des évaluations. Toujours, encore une fois, mettant en œuvre la méthodologie à la Esther Duflo. On a mis en place notamment l'expérimentation 1000 permis pour réussir, qui a été lancée en 2009 par le fonds Hirsch, le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui consistait à subventionner et à accompagner des jeunes pour les aider à passer leur permis. et on a enquêté sur ces jeunes. Donc, encore une fois, à partir d'un échantillon de jeunes, on tire au sort les jeunes qui vont bénéficier du dispositif et ceux qui ne vont pas en bénéficier. L'effet est important sur la réussite au permis. Le taux d'obtention au permis du groupe de traitement, du groupe test, 12 mois après la mise en place du dispositif, c'est 25%, alors que c'est presque deux fois moins pour le groupe placebo. On observe un effet très net ensuite sur la recherche d'emploi, notamment pour les filles. Donc la mobilité, c'est aussi élargir l'ensemble des opportunités possibles.
Les filles avaient la possibilité d'aller plus loin, c'est ça que...
Voilà, les filles ont ouvert leurs horizons. C'est peut-être un moyen aussi de sortir, plus facilement de l'environnement proche du ghetto. On s'est rendu compte aussi pour une catégorie particulière des garçons, ceux qui travaillent dans le secteur de la construction, donc qui doivent se déplacer dans les chantiers par exemple, donc pour lesquels la mobilité pendulaire c'est un problème important, que ça s'est amélioré, enfin que pour eux aussi il y a eu des effets assez positifs, mais c'est une mesure coûteuse. On s'est rendu compte que c'était une mesure coûteuse. Le coût de cette mesure, c'est à peu près un peu plus de 7 000 euros par permis de construire, alors que le coût normal, c'est 5 fois moins.
Permis de conduire.
Du permis de conduire, pardon. Alors que le coût normal, c'est 5 fois moins.
Qu'est-ce qui explique une telle différence ?
C'est la subvention, le suivi.
Ça fait cher le permis.
Ça fait cher le permis. Cet argent qu'on met à aider les jeunes, effectivement, c'est positif, mais on pourrait peut-être l'utiliser à autre chose.
Fabien Moiseau, on arrive à la fin de cette émission. Dernière question. On est en période électorale. Que peuvent les maires ?
Je dirais que l'un des leviers possibles. Alors, qu'est-ce qui peut être à la disposition des maires ? C'est par exemple la carte scolaire. On n'a pas parlé de la carte scolaire, de la mixité sociale à l'école.
Une des pistes consiste à mettre en place des secteurs multi-collèges. C'est ce qu'on a testé dans 3 secteurs à Paris. Jusqu'à l'année dernière, les élèves étaient affectés dans leur collège de secteur. C'est-à-dire que les élèves du secteur Berlioz étaient affectés au collège Berlioz, où 48% des élèves étaient défavorisés. Les élèves du secteur Coisvox, quant à eux, allaient à Coisvox, où seuls 14% des élèves étaient défavorisés. Cette année, grâce à l'expérience multicollège, tous les élèves de 6e ont été regroupés à Coisvox. Résultat, dans cet établissement, 27% des élèves sont défavorisés. La mixité sociale a été rétablie.
Extrait d'une vidéo publiée par le magazine L'Obs en avril 2018. On y entend Julien Grenet, économiste.
Redessiner la carte scolaire peut être un moyen de modifier la mixité sociale dans les écoles. Alors, j'ai peut-être pas le temps d'en parler, mais on se rend compte qu'à long terme, la mixité sociale, souvent, elle est contournée. Elle ne permet pas d'atteindre l'objectif de mixité sociale. Au contraire, elle peut renforcer la ségrégation. Donc, faut pas en attendre. Ce n'est pas la panacée, mais ça peut être un levier quand même de modification à court terme des populations dans les écoles. La loi SRU.
À chaque fois que des élus disent que, enfin, proposent de rigidifier la carte scolaire et d'être un peu sourd aux demandes de contournement, ils se heurtent à la résistance des populations.
Oui, ils se heurtent à la résistance des populations. Il y a effectivement aussi une fuite des familles vers le privé. C'est un instrument très imparfait. C'est une question très sensible. La construction de logements sociaux, les choix des emplacements des logements sociaux peuvent aussi modifier la mixité sociale dans la ville. La distribution des aménités, c'est pas seulement des monuments historiques, ça peut être le fait d'avoir des quartiers, des activités culturelles, tout un ensemble de services publics qu'on peut offrir aux populations. l'innovation, des services publics locaux qu'on peut offrir localement, ça peut être un moyen aussi de rendre certains quartiers plus attractifs.
Merci infiniment, Fabien Moiseau.
C'est
merci,
moi qui vous remercie.
Christian Lebar et notre réalisatrice Lucie Louapre. Et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Chercheurs en Ville.